Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, il fait chaud et du coup, on va parler de ça. On va parler de ça.
Tu vois pas.
Alors, la température d'aujourd'hui, elle est un peu exceptionnelle. Il fait 37, je crois, à Paris. Et hier soir, enfin hier et hier soir, c'était un record, je crois, de température pour un mois de juin enregistré. Il faisait 35 la journée et à peu près 30 degrés le soir et au-dessus des 26, même au milieu de la nuit. Bref, ce qu'on observe, c'est pas juste un pic de température comme ça c'est pas forcément hyper important et représentatif, mais on voit qu'on mesure de plus en plus de pics de chaleur comme ça. Là, j'ai une infographie sous les yeux. On voit que ces vagues de chaleur, elles étaient relativement peu nombreuses dans les années 50, 60. Et aujourd'hui, on en mesure quasiment deux par an. C'était moins de une par an avant les années 2000. Donc, certains en tirent la conclusion suivante. Nous avons un réchauffement climatique. On peut s'accorder là-dessus. Et par conséquent, moi, j'ai envie de dire d'accord, mais que faire par rapport à cela? Et nous avons déjà des bases forcément très différentes avec le camp de l'écologie. Déjà parce que il y a une première question, la plus large possible, c'est est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec le fait que oui, effectivement, on constate un réchauffement climatique, c'est-à-dire une augmentation en moyenne des températures observées?
Alors, c'est une bonne question. La réponse est probablement, en effet, il y a l'air de. Mais il y a des coins où ça ne se passe pas du tout, puisque par exemple, dans l'Antarctique, la masse des glaces depuis les mêmes 10 années donc mentionnées a augmenté de 17%. Donc, s'il y a plus de glaciation, c'est que sans doute ça caille plus, quoi. C'est
Oui.
un peu comme les jours de chaleur ici. Donc, il semble bien, mais il semble bien qu'il y ait des coins dans le. Par exemple, l'hémisphère sud semble avoir beaucoup moins de réchauffement que l'hémisphère nord.
Alors oui, vous avez raison, effectivement.
Et là, je ne vois pas du tout, parce que si c'est le CO2 dans l'atmosphère, il est le même partout. En principe, il n'y a pas de. Donc, tout ça est très compliqué. Donc, j'avais lu les bouquins de. Comment il s'appelle? Kunin. The science is not settled, c'est-à-dire que. En traduit, c'est-à-dire que la science n'a pas tranché là-dessus. Et il disait, lui, que par exemple, en Amérique du Nord, la température moyenne était montée, mais que c'était parce que la température les plus basses était devenue beaucoup moins basse. C'est-à-dire que, à la place de faire moins 60 au Canada dans le Nord, il fait moins 40, quoi. Donc, si vous faites la moyenne entre plus haut et plus bas, ça vous fait une grosse, mais finalement, on se caille à peu près autant en hiver, mais. Donc, ce que soulignent les gars qui suivent les températures, justement un type comme Conin, c'est que la saisie des données est pas très satisfaisante. Enfin, admettons que la température monte, qu'elle monte, bon, soit admettons. Mais il faut savoir aussi que les températures aujourd'hui sont de 2 degrés inférieures à celles qu'elles étaient sous l'Empire romain ou pendant l'optimum.
Médiéval.
Médiéval. Donc, par exemple, il n'y avait pas de glace au Groenland du tout, puisqu'on faisait de la vigne au Groenland. Donc, encore une fois, oui, il y a des phénomènes de température, mais d'abord, ça s'est toujours passé.
Oui, mais alors ce que disent beaucoup de scientifiques, c'est que effectivement, c'est pas la première fois qu'il fait aussi chaud sur Terre, et que il y a un argument qui est entendable, c'est que on mesure notre réchauffement atmosphérique par rapport à la période en fait pré-révolution industrielle, pré-industrielle, et que dans cette période pré-industrielle, en fait, il faisait plutôt exceptionnellement froid par rapport à
Oui,
d'habitude. Bon,
absolument.
alors ça, c'est tout à fait
C'était le
entendable.
mini-âge glaciaire qui était sous Louis XIV et Louis XV et Louis XVI.
Cependant, ce que disent les scientifiques tout de même, enfin une grande partie des scientifiques, parce que tous ne disent pas forcément la même chose, c'est que tout de même, on a une accélération du réchauffement telle que, pour le coup, ça n'a jamais été observé, c'est-à-dire un degré en un siècle, on n'a jamais vu ça. Et même en fait, dans des périodes où il y a eu un réchauffement, on observait plutôt un réchauffement de 0,1 ou 0,2 degrés par siècle. Et que là, vraiment, on a une accélération particulière qui fait qu'on ne peut pas mettre l'activité humaine en dehors de l'équation.
Oui, c'est possible. Mais d'abord, on n'en sait fort rien parce que On mesure la température de façon... C'est les moines qui ont commencé, donc on doit avoir peut-être 5 ou 600 ans de température.
Oui, alors évidemment, c'est des estimations par rapport aux carottes. Hein. C'est pas qu'on avait un type en carottes, 8000 qui avait un thermomètre.
Non, les carottes, sûr. Etc. Je pense pas que ça puisse... Mais enfin, je suis loin d'être un spécialiste. Mais... En plus, si vous voulez, quand on regarde historiquement... Les périodes de réchauffement ont toujours été des périodes de croissance économique, de bonheur, d'augmentation de la population. Les périodes de refroidissement ont toujours été des périodes de malheur, de famine, etc., etc. Donc, la première des questions, oui, il y a sans doute un réchauffement. La deuxième, c'est est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ?
Oui, bien sûr. Et tout à fait. C'est une
pour
question.
Je suis pas vraiment convaincu, quoi.
Oui, effectivement. En réalité, bon, il fait un peu plus chaud. C'est pas forcément très très agréable l'été. Mais enfin, bon, effectivement.
Ça dépend si vous êtes à l'ombre. C'est vachement bien.
Oui, si vous êtes à l'ombre, ça va. Et puis aujourd'hui ça aussi, ça va être un petit peu.
Je vous dire que c'est quand même beaucoup plus agréable d'être au soleil, même si vous êtes un peu chaud, que d'être en train de casser des cailloux quand il fait moins 20 dehors. Hein.
Oui.
Alors là, il n'y a pas photo. Hein, c'est,
Oui, c'est sûr. Il y a peu de gens qui meurent dans la rue en été parce qu'il fait trop chaud, alors qu'il y en a qui meurent dans la rue parce qu'il fait trop froid.
Oui, ça, ça arrive souvent. Je me souviens en 1956, quand ça avait caillé, là, au moment où on a commencé à parler de l'abbé Pierre, c'est que plein de gens qui sont morts dans la rue de froid. Quoi. Les clochards de l'époque, ils sont morts de froid. La température est tombée à moins 20 pendant la nuit. Les gens, ils sont pas réveillés.
Oui. Non, mais... Effectivement, nous avons quand même des hivers plus doux qu'auparavant. Et pour le coup, c'est plutôt agréable.
Oui, c'est des hivers plus doux, mais pas dans l'Antarctique.
Oui, mais alors après, j'ai vu qu'apparemment, ça dépendait des endroits.
Et
dans
les glaciers dans l'Amérique latine, ils n'ont pas l'air d'avoir baissé. Je ne réussis pas à avoir d'informations dessus, d'ailleurs.
Mais alors, apparemment, les
glaciers reculent chez nous, mais ils reculent pas en Amérique latine.
En fait, il semblerait que les endroits où le réchauffement climatique est le plus impactant, c'est en Europe, en Afrique du Nord et en Asie centrale. Il paraît que c'est là que les températures ont augmenté en moyenne le plus, et beaucoup moins en Amérique, y compris en Amérique du Nord, même par rapport à l'Europe, par exemple. Même s'ils ont des étés très chauds.
Alors
parfois,
la question, c'est la question qu'on posait toujours, c'est... La plupart des stations de mesure de la température ont été mises en dehors des villes il y a un siècle.
Oui.
L'embêtant, c'est que depuis un siècle, c'est devenu dans la ville. Quoi.
Oui, parfois, oui. Alors, effectivement, c'est pas toujours le cas, mais j'ai vu un exemple tout à fait récemment avec une station qui était à Toulouse-Blagnac. Station Toulouse-Blagnac, effectivement, il y a...
Quand j'ai passé à Toulouse-Blagnac à 50 ans, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas un rang, c'était des champs.
Voilà. Aujourd'hui, c'est en plein milieu de la ville, donc forcément, vous pouvez avoir 2 degrés de plus assez facilement.
Hein.
C'est évident.
C'est ça qui est très embêtant avec tout ça, c'est que, si j'ose dire, ce n'est pas la première fois qu'on nous fait des annonces millénaristes. Vous savez qu'on va tous mourir parce qu'il va faire trop chaud, trop froid... Oui. Ça a commencé avec ce brave Malthus, on n'allait pas avoir assez à bouffer.
Ouais.
Et historiquement, toutes les annonces millénaristes qui entraînaient des paniques, des trucs, n'ont jamais eu aucun effet.
Ouais.
Donc, il est possible qu'il se passe quelque chose, j'en doute pas d'ailleurs. Mais... Vous savez, j'étais un grand lecteur de Tintin. Il y avait dans l'île mystérieuse, il y avait un type qui se baladait, vous savez, avec
le fou.
Parce qu'il y avait, une étoile qui approchait, il faisait de plus en plus chaud sur la Terre et tout.
Ouais.
On va tous mourir. Et il y a beaucoup de gars avec un chapeau conique là, qui se balade dans le monde aujourd'hui, on va tous mourir.
Tout à fait.
Mais ce qui est très embêtant, c'est quand vous faites une petite enquête sur beaucoup de ces gars-là, vous vous rendez compte que tous leurs revenus viennent d'études qui sont commandées par des gens qui ont intérêt à ce que la température monte. C'est-à-dire que...
Il y a des lobbies, bien sûr.
Il y a un lobby absolument extraordinaire. Et si vous êtes professeur d'université et que vous dites que le lobby n'est que... c'est pas un problème, allez.
Ouais.
Comme le dit M. Gervais en France, vous vous retrouvez avec... qui est un scientifique, hein, vrai. Vous vous retrouvez automatiquement ayant perdu tous vos postes, n'étant plus publié nulle part, etc.
Ouais.
Donc... ce que je vois, c'est ce que me disait un de mes amis que j'aimais bien, qui n'est plus de ce monde. Il disait, écoutez, moi j'ai connu on allait tous mourir de froid, hein, ça avait commencé. La vague de froid, c'était le New York Times. New York allait être dans les glaces pour toujours, oui. Puis ensuite, on a eu les pluies acides qui défrisaient les forêts. Vous savez, plus avoir de forêt, c'était terrible. Puis le trou dans la couche d'ozone.
Ouais.
Et puis, il y en a eu comme ça 4 ou 5 de suite. Et chaque fois, ce qui en a résulté, c'est que des prises de mesures qui ont augmenté les impôts et réduisé les libertés.
Oui, mais parfois, par exemple, le trou de la couche d'ozone, c'est un truc aussi dont on me parlait quand j'étais petit, dont on parle plus aujourd'hui, mais parce que il y avait des gaz apparemment qui étaient émis par certains climatiseurs et par les frigos, qui faisaient effectivement un trou dans la couche d'ozone.
Bon. Mais ça, c'est ce qu'on vous dit, moi, j'en sais rien.
Mais le truc, c'est que les différents pays du monde se sont retrouvés pour dire, bon, on a un problème, ça augmente les cancers, etc., nanana. Et donc, des mesures ont été prises, et on a remplacé des gaz par d'autres,
bien,
et ça a supprimé le problème.
Mais on n'avait pas de raison d'augmenter nos impôts.
Non, ça ne veut pas dire qu'il fallait
augmenter les impôts sur l'énergie, etc. Donc, si vous réfléchissez de façon obtuse, vous vous dites, bon, si des gens cherchent à contrôler les autres, imaginez qu'il y a une classe de la population qui a pour ambition de contrôler ce que vous faites.
Oui.
Ce qui, loin de moi cette idée, mais c'est une hypothèse théorique. Hein, c'est... Donc, ils vont chercher à contrôler l'économie. Ils ont déjà essayé avec le crédit, ils ont essayé avec le marxisme, avec on pique les moyens de production, vous savez, etc. Donc, ça fait un siècle et demi qu'ils y sont. Mais ils ont enfin compris que l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée.
Ouais.
Donc, s'ils réussissent à contrôler votre consommation d'énergie, ils vous contrôlent.
Ouais.
Et c'est les mêmes, ou c'est les enfants des mêmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pour moi, il y a un certain nombre de choses qui me gênent beaucoup dans tout ça. La première, c'est que j'ai lu le bouquin de Kounine, qui était très intéressant, qui était un grand scientifique, et qui dit que tous les modèles qui en sont utilisés, il n'y en a pas un qui vaut chipette. Ça vaut rien, du point de vue mathématique. Il est professeur de la construction de modèles au MIT et à Caltech. Donc, c'est lui qui a fondé les chairs. Donc, on ne peut pas penser qu'il y a un meilleur gars. Donc, il dit que les modèles ne valent rien. Et il dit ensuite, on met ces modèles qui ne valent rien pour faire des investissements dans des modèles économiques qui valent encore moins. Donc, il dit, c'est absolument effrayant. On dépense des centaines de milliards de dollars sans qu'on ait la moindre preuve que ça va avoir le moindre effet. Peut-être de 0,01% dans 10 ans, j'en sais rien. Et vous voyez comment, par exemple, les recherches de fuel ont baissé des 3/4 et qu'on a dépensé 4 ou 5 fois ce qu'on dépensait autrefois pour faire des moulins à vent ou des miroirs magiques. Et c'est des dizaines de milliers de milliards de dollars. Et c'est plutôt dans les pays d'Europe, parce que je suis sûr que vous allez en Chine ou en Inde, ils ouvrent à peu près une centrale à charbon toutes les semaines. Donc,
Mais alors la Chine fabrique aussi énormément de panneaux solaires.
Ils fabriquent d'abord pour les autres et pour eux-mêmes, mais ils les font, ils ont une politique qui est assez astucieuse, c'est-à-dire que ils couplent des centrales thermiques, des centrales nucléaires avec des panneaux solaires. Et donc, ils ont le système, les centrales nucléaires qui font le fond de cour, là, les centrales thermiques qui font le... Et puis, s'il y a trop de panneaux, ben, on ralentit les... S'il y a trop d'électricité, on ralentit les centrales thermiques et on fait monter les centrales. Donc, c'est un système qui est parfaitement cohérent et intégré. Un peu ce qu'avait fait la France avec les barrages et le nucléaire.
Ouais.
Mais c'est pas du tout ce qu'on fait en France. Nous, en France, on achète le courant venu de l'alternatif à deux fois le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, le prix de l'électricité a doublé depuis 10 ans pour pouvoir payer cette électricité de mauvaise qualité à temps interruptif. Donc...
Et puis là aussi, où c'est mal foutu en France, c'est aussi que c'est piloté par l'État. Parce que par exemple, ce bon Richard Détente qui vient ici de temps en temps, qui a du coup des business au Texas, à chaque fois il me raconte le système électrique au Texas, et il est très content de comment c'est organisé. Il y a du nucléaire, il y a de l'éolien, il y a du solaire, et simplement tout est fait par le privé. C'est-à-dire que si ce n'est pas rentable, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que notamment dans le solaire, par rapport à il y a 20 ans, le coût de production du solaire, ça a été divisé par 10. Donc c'est beaucoup plus efficace qu'avant.
Mais encore une fois, bien sûr, c'est beaucoup plus efficace qu'avant, mais ce qui me gêne beaucoup dans tout ça, et on l'a vu avec l'exemple de l'Espagne, c'est qu'un système électrique dans lequel l'alternative serait au-dessus de 35 ou 40% saute. Saute complètement. Il ne tient pas. Donc, le coût a peut-être baissé de 90%, mais ça reste alternatif.
Ah oui, bien sûr.
Donc,
ah
non, si vous voulez, le problème n'est pas réglé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de... Et en plus, moi, si vous voulez, les investisseurs... Moi, ce qui m'ennuie avec ce que vous dites sur le secteur privé, etc., c'est que... Bon, là, c'est des services publics d'électricité au Texas qui sont réglementés par le gouvernement du Texas, etc. Donc, c'est pas vraiment un secteur privé. Mais quand vous faites un investissement, vous calculez la valeur actuelle de cet investissement en utilisant des taux d'intérêt. La valeur actuelle, c'est l'actualité. Vous savez, c'est present value, ça se dit en anglais. Mais comme ces investissements énergétiques, le nucléaire, les barrages, ça dure 50 ou 100 ans, si vous mettez des taux d'intérêt là-dessus, 50 ou 100 ans, ça ne vaut rien en 50 ans. Or, vous savez que ce n'est pas vrai. Donc, le secteur privé ne peut pas aller à faire des investissements au-delà de 50 ans parce qu'il ne peut pas, il peut pas le calculer à la rentabilité. Ça l'embête parce que les mathématiques ne suffisent pas. Et c'est à ce moment-là que l'État intervient, comme il l'a fait en France, pour faire des trucs à un horizon très très long. Donc, ça réduit la fragilité de la France, ça augmente son antifragilité. Et c'est là où le gouvernement, à mon avis, est complètement dans sa responsabilité de faire des investissements à très long terme qui réduisent la fragilité du pays. Donc, je ne suis pas certain que, dans le domaine de l'électricité, de l'énergie, il faille se braquer sur une nécessaire concurrence.
Mais alors,
ça me paraît pas du tout essentiel.
Après, c'est un truc qui a tendance un petit peu à changer dans le sens où vous avez raison sur le fait que c'est quasiment impossible pour le secteur privé de faire des investissements à très long terme comme ça, puisque vous êtes au bout d'un moment vous êtes juste plus solvable. Simplement,
c'est pas vous êtes plus solvable, c'est que vous pouvez pas introduire dans le marché quelque chose dont vous montrez que ça aura de la valeur. Vous savez que ça aura de la valeur. Mais vous ne pouvez pas dire que ça, vaut ça. C'est-à-dire que l'État, lui, c'est comme, si vous voulez, un petit peu le... Prenez l'exemple de Hong Kong, où le sol appartient à l'État. Donc tous les 100 ans, si vous avez bâti une maison il y a 100 ans, le sol retombe dans la propriété de l'État, qui le revend. Ça n'empêche pas que l'immobilier à Hong Kong est très cher, parce que vous avez encore 50, 70, 80 ans sur votre truc. Mais l'État reprend la propriété du sol tous les 100 ans. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais de déficit budgétaire. Ben, c'est un peu la même chose, là. C'est-à-dire que vous fassiez des programmes d'électricité alternatifs ou j'en sais rien, qui marchent sur les 10 ou 15 ans qui viennent, vous pouvez calculer une vague rentabilité. Mais à 100 ans, vous ne pouvez pas. C'est simplement, si vous faites 10% d'intérêt par an, ben, dans 100 ans, un dollar, ça vaut zéro.
C'est fou. Ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, on voit notamment dans le domaine de la tech, dans les géants de l'IA, les Microsoft, Amazon, etc., cherchent à acquérir des centrales nucléaires, à les remettre en route ou alors en construire carrément.
Oui, parce qu'ils en ont besoin.
Oui, ils ont besoin.
Eux, c'est à cause de la consommation d'électricité double, je sais pas quoi, en ce moment, tous les 7 ans, où je me souviens très bien. Et en réalité, la production d'électricité ne double pas. Donc, ils savent qu'ils vont avoir un grand problème avec l'intelligence artificielle.
C'est le premier facteur limitant à moyen terme.
Vous savez que ça risque de sauter. Donc, en effet, que Microsoft se fasse une centrale nucléaire pour elle, et d'ailleurs, ils peuvent se la payer, ils ont du cash à ne savoir qu'en foutre, ça ne me gêne pas du tout. Ce qui est très embêtant avec tout ça, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Par exemple aussi, j'ai lu un autre livre qui était fait par le patron de la surveillance météorologique de la NASA. Vous savez, le truc qui envoie des fusées, là, donc ils envoient des satellites pour mesurer le... pour mesurer les températures et tout. Et là, c'est un peu plus fiable que les thermomètres au sol. Et il y a quelque chose de très intéressant qui disait, c'est que, d'après ces estimations, 90% des changements de température dans le monde venaient des nuages. Et que personne n'a le moindre modèle de la façon dont fonctionnent les nuages. Mmh. C'est un tel merdier que personne n'y comprend rien.
Très aléatoire.
Ben, c'est pas que c'est aléatoire, c'est que personne n'y comprend rien. On est incapable de modéliser les nuages. Or, il se passe des trucs là-dedans, c'est là où se passe tout. Donc, il dit, c'est quand même embêtant de faire des modèles de prévision de la température qui n'incorporent pas 90% des trucs. Et puis, je crois que c'est Kounine dans son livre qui disait autre chose qui me gênait. C'est qu'il disait, on est à peu près capable de mesurer la température de l'eau en surface, dans les mers. En dessous de 10 mètres, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée de la température de l'eau et on n'a aucune idée de cette variation des températures. Et c'est aussi un des principaux courants, c'est, vous savez, c'est les courants, c'est tout ça.
Ouais.
Et ça non plus, on est complètement incapable de les modéliser. Ouais. Donc moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que moi, quand je fais des modèles sur le marché financier, je passais ma vie à faire ça, en espérant qu'il allait pas marcher d'ailleurs, parce que ça voulait dire qu'il y avait un élément nouveau. Bon, je fais un modèle, et en principe, mon modèle, il est capable de me dire, compte tenu des trucs que j'ai mis dedans, ce qui s'est fait passer dans le passé, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il est monté parce que, il a baissé parce que, là, bon, très bien. Et là, il n'y a pas un seul modèle qui vous explique le temps qu'il a fait l'an dernier.
Ouais.
Mais qui est capable de vous dire que s'il a fait l'an dernier, même pas l'an prochain.
Oui.
Et donc, j'ai l'impression que c'est un grand truc de magie où il y a des sorciers avec des chapeaux pointus qui agitent des collèges en disant « Vous allez tous mourir, sauf si vous venez. » Et du coup, vous savez, la base d'une religion, hein, qu'on le veuille ou non, c'est toujours la même. C'est vous avez fait un gros péché.
Oui.
Première étape. Donc, vous allez mourir. Mais, moi qui suis un prêtre, qui a une ligne directe avec la divinité, je vais vous empêcher de mourir, à condition que vous m'entreteniez dans le luxe que je mérite jusqu'à...
Oui. Oui. Bien sûr.
Et ben, si vous voulez, donc on a fait naître une religion écologique, où on a les prêtres qui agitent leurs clochettes.
Ouais.
Je.
Non, mais là-dessus, en gros, il y a deux grandes positions. Il y en a une que je comprends, il y en a une qui est absolument incompréhensible. Bon. Il y a une position qui consiste à dire, et je ne suis pas totalement en désaccord avec ça, nous avons un réchauffement climatique. L'activité humaine est, au moins partiellement, peut-être majoritairement, responsable de ce réchauffement climatique.
Mais j'en sais foutre rien.
Peut-être.
J'en sais rien, c'est pas prouvé.
Oui, mais je veux dire, je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre. Donc, il faut essayer d'avoir un système de production d'énergie plus efficace pour pouvoir réduire cette. Ça, c'est une position que je comprends. Maintenant, il y a une autre position qui, elle, est inexplicable, autrement que par simplement le fantasme de voir l'humanité réduite à l'âge de pierre, c'est ceux à qui vous expliquez, il y a une question très simple à poser à ces gens-là pour savoir s'ils sont honnêtes ou pas, admettons que nous trouvions une source d'énergie quasiment infinie, très peu chère, qui ne pollue pas, admettons un nucléaire, la fusion nucléaire par exemple, déployée au niveau de l'humanité entière. Qu'est-ce que vous en penseriez ? Et là, nous avons énormément de prophètes de malheur qui disent que ce serait un désastre. Bon, bah là, ça prouve que
ce serait un désastre pour eux ?
Oui,
Parce qu'ils ne serviraient plus à rien.
Oui, oui, bien sûr.
Donc évidemment que ce serait un désastre. Oui, évidemment, oui. On me fait rigoler.
Mais je veux dire, même philosophiquement, ils estiment que ce serait insupportable d'avoir une telle capacité de production d'énergie, même sans polluer, etc. Ils expliquent que ce serait désastreux par principe, d'un point de vue même philosophique. Et alors, effectivement, oui, eux, d'un point de vue personnel, ils ne serviraient plus à rien. Oui,
c'est plus une. Rien, si vous voulez vous imaginer, tous les. Non, mais ça, c'est toujours pareil. C'est. Moi, il y a quelque chose qui me fait rigoler, c'est vous prenez par exemple le gaz, le pétrole. Bon. C'est à peu près les mêmes molécules. Hein. Bon, c'est un peu plus compliqué le pétrole que le gaz, mais enfin. Et alors, pourquoi tout le monde va vers le gaz et parle vers le pétrole? Parce que c'est à peu près pareil. Hein. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce que le gaz, il s'appelle le gaz naturel.
Ah oui.
Alors,
oui.
Comme c'est naturel, c'est pas dangereux.
Oui.
Mais c'est complètement couillon.
Oui.
Donc, tout le monde... Parce que le gaz naturel, vous comprenez, ça... Si c'est naturel, ça peut pas être mauvais, quand même.
Oui, oui, parce que, oui, l'infrastructure pétrolière...
Donc, encore une
pétrolière
fois, on trouve cette imbécilité du logos. Hum. Le coup de peau du gaz, ça a été de trouver, de se coller naturel derrière, quoi.
Oui. Mais alors, de votre point de vue, est-ce que du coup, ça sert à quelque chose d'essayer de trouver des manières non polluantes ou peu polluantes de créer de l'énergie?
Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut trouver des choses pas chères.
Oui. Parce que par exemple, si on s'aperçoit que le meilleur mode de production d'énergie, d'un point de vue rentabilité, c'est le charbon. Est-ce que ça sert à rien du coup de se mettre sur...
Alors je sais pas, parce qu'il y a peut-être des externalités sur le charbon. Si on réussit à enlever ces externalités, pourquoi pas? Mais encore une fois, tout le monde sait, toutes les études montrent que le moins dangereux, le moins polluant, etc., c'est le nucléaire.
Oui. Ah oui.
Mais tout le monde le sait. Donc, si vous voulez, il y avait des crétins comme Madame, comment elle s'appelle, Borne, qui était Premier ministre, et qu'elle était ministre de l'Industrie. Elle était chargée de fermer la moitié des centrales nucléaires françaises avant qu'on ait la crise de l'énergie. Donc, vous vous dites, cette personne est quand même. Elle est polytechnicienne. On peut pas penser. C'est pas comme si elle avait une licence de sociologie, qu'elle comprenait rien. On peut penser qu'elle sait faire une règle de trois. Et donc, qu'elle accepte de fermer la moitié des centrales nucléaires, alors qu'elle sait que le nucléaire est le moins dangereux, etc., ça prouve que...
Et en plus de ça, c'est une forme d'énergie dans laquelle la France est quand même assez en avance sur plein d'autres
pays.
On l'était, mais du coup, on essaye de raccrocher un peu les wagons.
Pour l'instant, on en parle, il ne s'est rien passé. Hein.
Oui, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose.
Je vous signale que là... On vient de perdre un contrat, c'est la Corée qui l'a eu, je ne sais plus avec quel pays. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, c'est de voir que des gens qui sont soi-disant compétents comme Madame Borne, qui était une scientifique, a accepté de prendre une décision qui était à l'évidence imbécile et criminelle, parce qu'elle pensait que dans le fond, c'est ce que pensaient les gens qui n'avaient pas sa capacité à elle. Et je trouve ça terrifiant de voir des gens qui prétendent être aux responsabilités... prendre des décisions parce qu'ils pensent que leurs administrés sont des crétins.
Oui.
Donc, comme mes administrés sont des crétins qui ont été convaincus par d'autres crétins que le nucléaire, c'était dangereux, je vais le fermer alors que je sais que ce n'est pas dangereux.
Oui.
À la place d'éduquer les populations
sur
le fait que ce n'est pas dangereux. Donc oui, si j'ose dire, la crise de l'énergie, si on a une crise de l'énergie qui arrive, ça ne sera en rien une crise due au réchauffement ou au refroidissement ou je ne sais pas quoi. Ce sera une crise due aux mauvais choix qui ont été faits par des gens qui ont suivi des modes à la place de suivre la science. Parce que tous ces gars-là vous parlent de la science, mais comme le dit très bien Kounine, la science n'a pas tranché. Aujourd'hui, il n'y a pas un gars qui peut vous dire « je suis certain que le réchauffement est d'origine humaine ».
Ouais.
Ça n'existe pas, il n'y en a pas un. Hein.
Mais est-ce que, comment dire, est-ce que ça vaut quand même le coup d'essayer de réduire, alors je ne parle pas de réduire la
mais est-ce consommation que le CO2, d'électricité. Est-ce que le CO2 est un polluant?
Je parlerai pas de polluant à proprement parler pour le CO2.
C'est
après,
la nourriture des plantes.
Oui, c'est pour ça que je parlerai.
Si le CO2 baisse de 10 à 15%, on meurt tous.
Oui. Oui, non, mais
en
bien
plus,
sûr,
c'est
le CO2
quoi, c'est 0,02 ou 0,0002 de gaz dans l'atmosphère. Donc, c'est absolument. On a réussi un coup très bien, c'est comme on ne le voit pas. On se dit, c'est une saloperie qui est là, qu'il y en a trop, ça doit me faire mal ici. Mais le CO2, c'est.
Oui, après, quand on voit, par exemple, certaines villes qui sont très, très polluées, c'est
ça,
normal
c'est,
de vouloir...
C'est pas du CO2, hein. Non, c'est des saloperies qui viennent du charbon ou n'importe quoi, c'est des poussières, c'est des...
Oui, mais je veux dire, c'est aussi... ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais les voitures recrachent aussi énormément de gaz comme ça. C'est quand même pas très bon, ni pour l'atmosphère, ni pour la respiration, ni pour... encore une fois, ça augmente aussi la chaleur sur place dans la ville.
Bien entendu, mais vous voyez que c'est pour ça, comme tout va de plus en plus mal, c'est pour ça qu'on est passé de 50 à 80 ans d'expérience de vie, quoi.
Ah non, mais bien sûr, évidemment.
Donc, non, je veux dire, c'est moi, je me souviens quand j'étais enfant à Amiens, après la guerre, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien de marché, etc. C'était juste après la guerre. on brûlait de la tourbe. Je vous assure que quand je prenais mon vélo pour aller à l'école, mon col, il était tout noir après.
Ouais. Oui, non, mais
je suis toujours là. Hein.
Non, mais nous avons fait des progrès absolument.
Mais foudroyant. Mais, et alors, ce que tu as bien connu aussi, c'est qu'il dit que vous prenez par exemple l'air à Paris.
Oui.
On vous dit l'air à Paris, il y a 30 ans, il y avait des critères de pollution.
Oui.
Et on vous disait, c'est très pollué, c'est pas pollué, c'est pollué.
C'est de moins en moins pollué, Paris.
Mais non, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté les critères de pollution à la baisse de la pollution.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que maintenant, ce qui était autrefois pas pollué du tout, c'est très polluant.
Oui, oui.
Et donc, il vous montre l'historique en disant, voyez, Paris, la pollution ne baisse pas.
C'est comme les mesures de la pauvreté dans le monde.
Voilà. C'est comme les mesures de la pauvreté dans le monde. Donc, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que les gens pensent que des chiffres, c'est la vérité.
Ouais.
Ben, c'est pas vrai du tout.
Oui, ben si on change l'échelle toutes les deux semaines, forcément.
Ben, si vous changez, c'est exactement ce que je dis aussi aux gens. Si vous pensez qu'un dollar de 1920, ça vaut un dollar d'aujourd'hui, ben, vous êtes. Vous ne mesurez pas la même chose.
Hein. Oui, on est très loin. Mais oui, en termes réels, la pollution à Paris a baissé ces dernières décennies. Pareil à Londres, évidemment.
Bien sûr,
à Londres,
bien sûr,
pendant la période industrielle, c'était irrespirable. Aujourd'hui, bien sûr...
Avec le fog, qui a disparu, d'ailleurs.
Voilà. Dans à peu près toutes les villes, on fait des progrès faramineux.
Il y a encore une pollution dégueulasse à Pékin et dans des trucs comme ça, à Shanghai, à Chongqing et partout. Mais maintenant, ça s'améliore petit à petit.
Oui, et puis même le véhicule thermique qui a mauvaise presse à cause de ça. Bon, le véhicule thermique d'il y a 30 ans, il polluait... infiniment plus que le véhicule thermique d'aujourd'hui. Donc, je veux dire, il y a
donc
pas que la voiture électrique.
C'est pas une
comme...
question de... Moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est... Bon, je suis un économiste. Hein.
Oui.
Donc, vous avez un stock d'épargne qui est créé par vous, par moi, etc., qui est déposé dans les banques. Bon, et puis, vous avez un potentiel d'investissement qui est là.
Oui.
La façon dont ça se passe d'habitude, c'est que le prix... des taux d'intérêt et le prix des investissements déterminent là où l'épargne va aller s'investir. Bon, c'est ce qu'on faisait autrefois avec l'énergie, on faisait des trous, on trouvait du pétrole, etc. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce store d'épargne maintenant est préempté par des déficits budgétaires et par des contraintes. Ce qui fait qu'il ne reste plus d'épargne à investir dans l'économie productive et qu'on va tous mourir en pleine santé.
Ouais.
Mais beaucoup plus vite, parce qu'il n'y aura plus de système de santé, parce qu'il n'y aura plus rien. Donc, encore une fois, cette façon qu'ont les gouvernements de prendre le contrôle des dépenses d'énergie, soi-disant pour mon bien, fait que finalement, je ne peux plus bouger, je ne peux plus partir, je ne peux plus prendre l'avion, je ne peux plus... Alors, j'ai envie de t'exagérer, je leur dis, j'en sais rien, quand il y a eu le Covid, vous n'avez pas eu le droit de voyager pendant plusieurs mois.
Ah oui, pendant longtemps, oui. Enfin, on parlait de voyager. Pendant plusieurs mois, on n'a pas eu le droit d'être à plus de 10 km de chez soi. Donc, comment vous expliquez que même la Chine, par exemple, a pris des mesures extrêmement liberticides aussi?
Parce que la Chine, ça leur est égal de prendre des mesures liberticides. Ils ont l'habitude. Hein. Mais ils n'ont pas de...
Ils ont préféré prendre des mesures liberticides plutôt que d'encourager le développement économique et se dire...
Pendant un petit moment, mais... oui, mais regardez par exemple mon frère qui vient en Suède. Lui, ils ont rien fait du tout, les Suédois, mais rien.
Ouais.
Et donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire que la Chine prenne des mesures liberticides. Mais par contre, les Suédois, on pouvait aller à la messe, on pouvait aller se promener, on pouvait voir dire bonjour aux petits-enfants de loin, comme ça, parce qu'il ne fallait pas qu'ils se rapprochent trop. Donc, à chaque fois que ces espèces de globalistes, si vous voulez, poussent une peur... c'est toujours accompagné d'une perte de liberté, d'une perte d'une hausse de nos impôts.
Ouais.
Donc moi, je veux bien, mais Björn Lundborg, qui est le type qui est cet écologiste danois qui avait écrit ce livre qui était un best-seller mondial il y a 20 ans, qui s'appelait « Un environnementaliste sceptique », ce qui est difficile à dire, qui continue, que j'ai vu à Londres récemment, qui est un type tout à fait remarquable. Il fait toute une série d'études en disant si vous voulez faire baisser le CO2 dans le monde, il y a une façon très simple, c'est que vous mettez plein d'électricité en Afrique. Parce que comme il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, etc., beaucoup de coins en Afrique, ils font brûler des bouses de vache. et ça pollue de façon épouvantable. Le CO2, c'est absolument épouvantable. Donc il dit, foutez une électricité pas chère, mettez des centrales nucléaires, et ça aura beaucoup plus d'effet qu'emmerder tous les Français sur leur... Donc il a fait des études en disant, vous êtes en train de gaspiller un capital monstrueux, et vous ne faites pas les quelques... donner de l'eau propre et de l'électricité à toute l'Afrique, si c'était nous, Europe, qui le faisions, eh bien, ça serait beaucoup plus efficace que toutes les saloperies que fait Bruxelles.
Ouais.
Et en plus, ils auraient de l'eau fraîche et du...
Oui, non, en fait, le problème aussi, c'est dans le discours politique qui suit...
Il faut faire quelque chose.
C'est qu'il faut faire quelque chose, et c'est toujours les mêmes qui doivent faire quelque chose. C'est-à-dire que nous avons constaté, en Europe, depuis 1990, nos émissions de gaz à effet de serre, qui est donc l'instrument mesuré par... l'unité mesurée par les écolos, ont baissé de 37%.
Ouais.
Bon, dans certains pays, notamment des pays nordiques comme la Suède, le Danemark, ça dépasse les 40%. Chez nous, en France, c'est 40% aussi. Enfin bref. Donc nous avons carrément dépassé le pic de pollution. Et ça ne fait que continuer à baisser.
Oui, mais attendez une seconde. Si vous avez transformé toute votre production en Chine et que vous achetez les bagnoles chinoises qui font une pollution pas possible, vous avez simplement fait... Vous avez fait l'économie de la pollution ici. Je vous donne un exemple. Les sociétés françaises, la France, il y a 10-15 ans, avait un excédent des comptes courants de sa balance commerciale voiture qui était supérieur à 40 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, on est à moins 5.
Oui, bien sûr.
Donc ça veut dire que maintenant, on fait nos voitures à l'extérieur et qu'on a envoyé les pollutions là-bas et qu'on se... drape dans notre...
Oui, mais ce qu'on mesure, c'est que même pour la même quantité d'énergie consommée, on pollue 40% de moins. Donc,
ben non, parce que si vous faites venir des voitures de Chine...
Mais on produit aussi d'autres trucs, notamment dans le bâtiment.
Non, vous avez exporté une partie massive de votre saloperie, et vous dites, regardez comme je suis vertueux, mais vous l'achetez... Vous achetez, ils nous vendent ces voitures et on leur donne une dette... Et donc, la pollution du français n'a pas baissé.
Si, quand même.
Un peu.
Si, en termes de l'énergie qu'on produit, même pour le même kilowatt, est moins polluant aujourd'hui qu'il y a.
Ah, mais qu'on produit en France. Mais si vous achetez des tas de produits extrêmement polluants en Chine et que vous les apportez chez vous,
bien sûr, je suis d'accord.
Il faut ajuster. Hein.
Je suis d'accord.
Donc tout ça, c'est des calculs à la noix qui n'ont pas de raison d'être. Et on ne voit pas très bien qui gagne. Je vous donne un exemple qui me sidère, c'est que là, j'ai des clients français dans mon vrai métier. Il y a 2-3 ans, 4 ans, je ne sais pas pourquoi, qu'il fallait acheter Total. Les réglementations françaises, alors que Total est une société française cotée en Bourse de Paris, les réglementations faites par les sociétés écolo, le ministère de l'écologie, interdisaient aux caisses de retraite d'avoir des quotas.
Ah oui.
Et ils ne pouvaient pas demander aux banques des prêts, parce que les banques françaises refusaient des prêts aux énergies fossiles.
Ouais.
Donc vous vous dites... Mais...
Et c'est pour ça que Total s'est retrouvé un petit peu obligé d'investir dans...
Ils allaient faire des trous ailleurs avec...
D'ailleurs, toutes les publicités qu'on voit de Total, c'est à chaque fois sur les énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables, alors qu'ils en ont rien à foutre, et que ça fait même pas 1% de leur chiffre d'affaires, alors en gros, peut-être. Donc tout ça nous fait rentrer dans des espèces de discussions d'origine magique, et on peut plus prendre des décisions rationnelles.
Ouais.
Moi, c'est ça qui me tue, c'est que la base d'une décision, si vous voulez, c'est que vous vous informez, vous demandez, je ne sais pas, aux scientifiques, etc. Mais quand vous savez que 98% des scientifiques aujourd'hui reçoivent des subventions des gars qui cherchent à réduire le CO2, quel genre de confiance vous pouvez donner dans ça, si vous...
Puis je trouve que si l'objectif, c'est de réduire le CO2, bon, admettons, pour moi, le capitalisme est beaucoup plus efficace que le socialisme pour y parvenir.
C'est évident.
Ce que proposent globalement les socialistes, c'est alors évidemment des taxes,
investissements. Le socialisme, c'est toujours de faire baisser le niveau de vie parce qu'on vit trop bien.
Bien sûr, certains, même à gauche, parlent de décroissance. C'est-à-dire ils voudraient qu'on arrête tout développement économique, tout développement technologique, et qu'on revienne en fait comme on vivait au Moyen-Âge.
Mais ils ont qu'à aller en Corée du Nord, ils seront bien traités là, j'imagine. C'est bien.
Sans doute, oui.
Non, mais il y a, c'est encore une fois ce que disait Schumpeter, qui était un très grand économiste. Et le problème du capitalisme, c'est quand le capitalisme fonctionne bien, le niveau de vie monte.
Oui.
Et donc, avec le niveau de vie monte, tout le monde fait des études. Et oui. Donc, il y a beaucoup trop de gens qui se mettent à faire des études.
Oui, c'est vrai.
Et vous avez, au bout d'un certain temps, une classe de types qui ont fait des études, qui s'attendaient à avoir le niveau de vie de leurs professeurs ou de leurs grands-parents qui étaient des intellectuels, puis qui ne l'ont pas parce qu'il y en a beaucoup trop.
Ouais.
Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ces gens-là s'inscrivent au Parti Socialiste et détruisent le capitalisme. Et c'est là, on est aujourd'hui dans la classe, puisque 90% des gens ont eu leur bac, on est dans la classe des faux intellectuels qui prennent des décisions fondées sur des...
Et ce genre d'intellectuel est souvent financé directement par nos impôts, donc ils n'ont pas du tout intérêt à ce que l'État soit moins présent pour eux.
Et ils en sont plus de toujours financés par nos impôts.
Et en plus de ça, ils ne vivront jamais les conséquences de leurs idées.
Mais en plus, je vois par exemple, moi, dans la campagne où je vais de temps en temps quand même, on ne sait plus quoi foutre des sangliers. Vous savez, il y a des sangliers qui se...
Ouais.
Je crois que pendant un an ou deux, on ne les a pas chassés au moment du Covid.
Ah ouais.
Et donc ils se sont fait mis à faire comme des lapins, et puis alors... Alors là, j'étais dans les Landes la semaine dernière, là, c'était assez gai, dans une conférence que je faisais. Et alors j'ai demandé qu'est-ce que vous faites de vos sangliers et tout. Et le type m'a regardé, il m'a dit vous savez, nous, les paysans dans le coin, on ne demande pas la permission de les tirer.
Non, mais c'est un vrai fléau, les sangliers. Hein.
C'est un vrai fléau,
partout
donc.
Partout où il y en a.
Donc, ils les tirent, ils ne demandent pas la permission.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des lois qui ont été passées sur le nombre de sangliers que vous pouvez tuer, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, vous voyez très bien que les paysans qui sont au contact de la nature, qu'on le veuille ou non, ils ont une façon différente de considérer les problèmes écologiques que les. Et s'il y a plus de CO2, c'est au poil. Le blé, il pousse mieux, la luzerne, elle pousse mieux, ils voient tout ça, les arbres fruitiers.
Ouais.
Et il y a une histoire, je vais vous raconter parce que je trouve ça absolument extraordinaire, j'ai lu ça récemment. C'était un gars qui faisait des cerises. Et alors il s'est rendu compte que les cerisiers donnaient beaucoup plus de cerises s'ils mettaient des enregistrements de chants d'oiseaux dans ces cerisiers.
Alors ça, c'est dingue.
Donc les cerises se disent, il y a beaucoup d'oiseaux, donc ils vont bouffer mes cerises, ils vont aller les mettre ailleurs.
Ouais.
Donc, il y a une façon de comprendre dans la nature que le cerisier entende les chants des oiseaux et se mette à faire plus de cerises. Ça prouve que c'est ce que disait dans Macbeth. Il n'y a plus de choses dans la nature que ne peut expliquer ta philosophie. C'est-à-dire que, je veux dire, tous ces gens-là, c'est des mondes infiniment compliqués. Ils arrivent avec leurs gros doigts, ils disent plus de CO2, plus de ceci, plus de cela.
Oui, il faut organiser ceci comme ça. Ouais.
Mais ils ne comprennent pas l'infinie complexité de ces choses-là.
Oui. Et en plus de ça, effectivement, sur le rapport à la nature, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le dur, dans l'organisation limite mètre carré par mètre carré. Là, pour le coup, la plupart des écolos sont des immenses citadins qui n'ont pas vu un champ depuis 10 ans. Quoi, donc,
oui. Alors, je sais qu'il y a un problème assez grave qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une bête qui bouffe les vers de terre. Vous savez que les vers de terre, c'est ce qui permet la culture. Donc, il y a une espèce de charançon qui est arrivée, je ne sais pas, dans un autre pays. Donc on a un vrai problème. C'est qu'on a de moins en moins de vers de terre. Et ça, c'est très mauvaise nouvelle pour l'agriculture. Ça, c'est un problème dont on pourrait s'occuper. Donc ce qui me paraît extraordinaire, c'est que vous parlez aux paysans, ils vous parlent de vrais problèmes. Et puis il y a l'autre qui arrive de Paris, qui vous dit vous faites trop de CO2.
Ouais.
Et le mec, il s'écroule de rire. Quoi, c'est... Et que les vaches, ça pète. J'ai vu mais des trucs de le Bruxelles qui disait qu'il fallait que la France réduise son nombre de vaches de 700 000 euros, parce que de 700 000 nombre de vaches par an.
Oui.
700 000 vaches parce que ça faisait trop de gaz. Mais je me suis dit, mais 700 000 vaches, mais chacune des vaches, elle est gentille.
Oui. Puis ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les tuer.
mais oui, il faut les tuer, 700 000 vaches.
Oui, d'accord, super.
Parce qu'elles pètent.
Un génocide de vaches.
Mais ils sont complètement...
Intéressant comme vision de l'écologie.
C'est...
Non, et il y a aussi quelque chose.
C'est une histoire de. Il y en a pas assez pour tout le monde, donc on va tuer ceux qui sont là.
Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui me dérange, c'est le côté. Nous avons un réchauffement climatique qui va faire de plus en plus chaud, etc. J'entends, ok. Mais derrière, il faudrait refuser de s'y adapter. Et il y a notamment un instrument qui est absolument honni par les écolos en ce moment, c'est la clim. Ils détestent la clim. Alors,
visiblement, ils veulent qu'on souffre.
Ils veulent qu'on souffre. Alors, ils veulent pas.
Vous avez péché.
Ils veulent pas trop qu'on se chauffe en hiver. Et maintenant, ils veulent pas qu'on se refroidisse en été.
Et vous comprenez pas que la base de leur raisonnement, c'est que vous avez fait un péché et que c'est à eux de faire l'intermédiation avec la divinité. Mais si vous vous dites, écoutez, j'ai péché, mais j'ai trouvé une huile qui va me qui va me garantir que finalement, j'irai pas en enfer.
Ouais.
Et donc, c'est pas tout de. C'est pas tout que vous ne souffriez pas, c'est, il faut que vos voisins souffrent.
Oui.
Vous voyez, vous vivez dans le confort, mais il faut quand même les convaincre qu'eux, ils doivent vivre dans l'inconfort, la misère.
Oui, en fait, effectivement, eux, ça les dérange évidemment de vivre dans l'inconfort, sauf que.
Mais ils ont l'air conditionné.
Mais ils ont. Alors, beaucoup d'entre eux ont l'air conditionné, à commencer par les députés, déjà. Évidemment, ils ont l'air conditionné. Mais ils jouissent encore plus du fait de voir les autres souffrir, effectivement. Voir le citoyen lambda souffrir et lui dire non, tu ne peux pas acheter cette clim à 400 euros sur Amazon et dormir dans une chambre à 22 degrés. Ça, vraiment, ça leur fait le plus grand plaisir.
Donc, si vous voulez, il y a quand même un désir de se sentir supérieur. Et pour se sentir supérieur, il faut mettre l'autre dans une condition où il sera inférieur.
Ouais.
Donc, vous lui donnez des ordres.
Oui.
Vous n'avez pas le droit d'avoir de l'air conditionné. Ouais. Et pourquoi ? Parce que je sais mieux que vous.
Oui.
Il est temps de sortir les fourches.
Ouais. Et alors, les arguments, si on peut appeler ça des arguments qui sont avancés pour lutter contre la climatisation, c'est que déjà, ils disent ça consomme de l'énergie. Alors, j'ai envie de dire, premièrement, on s'en fiche. On s'en fiche. Déjà parce que c'est pas si mal de consommer de l'énergie, de l'électricité, notamment dans notre système en France, notamment en pleine journée, puisqu'on a des heures creuses. Et donc, on produit de l'électricité à perte. Donc ça ne sert à rien. Donc autant l'utiliser, au moins c'est mieux pour le système électrique français. D'autre part, je suis d'accord dans la logique de ça pollue, etc., parce que ça consomme de l'énergie lorsque l'électricité est produite avec du charbon. En revanche, ce n'est pas notre cas, nous, en France.
Non.
Notre mix énergétique est décarboné à plus de 95%, donc c'est pas du tout un problème. Et donc voilà, sur la consommation d'énergie, je vois pas vraiment le problème.
Mais en plus,
de ça,
il n'y a jamais eu développement des sciences, du niveau de vie, de la santé, tout ça, sans qu'il y ait une consommation accrue d'énergie.
Oui.
Donc si vous voulez, quelqu'un qui dit « je vais réduire la consommation d'énergie », ça veut dire quelqu'un qui veut que votre niveau de vie baisse, que votre espérance de vie baisse. Donc c'est extraordinaire de voir des gens qui sont vraiment arrivés à tel niveau d'égoïsme qui condamnent les autres à une mort prématurée.
D'autant que les climatiseurs sont plus efficaces qu'avant, donc pour le même effet, ils consomment moins d'énergie au fil du temps. Donc,
Peut-être ça va éviter à des petits vieux d'avoir des maladies qui vont ensuite encombrer nos hôpitaux, etc.
Oui, bien sûr.
Donc encore une fois, si vous passez un été confortable, vous aurez moins de morts, quoi.
Oui.
Donc moins de morts et moins de malades.
Et ça permet aussi, même pour ceux qui travaillent en intérieur, ça permet d'être plus productif, puisqu'on note à chaque fois, dès qu'il fait plus de 30 degrés...
C'est... Tiens, par exemple, on crevait toujours dans ce bureau. Là, on a mis une espèce de machine, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait de
l'air frais. Là, pour le coup, c'est un ventilateur. Je ne sais pas qui est contre le ventilateur, parce que là, pour le coup, vraiment, il n'y a aucun...
Non, mais c'est un ventilateur, mais il fait de l'air frais, celui-là. Je ne sais pas comment il se débrouille. Et donc, c'est quand même beaucoup plus agréable de faire l'interview cet après-midi que l'interview ce matin où on crevait de chaud ici, quoi.
Oui, effectivement. Là, on pourrait continuer pendant 3 heures.
Non,
mais on va pas le faire.
On va pas le faire.
Ouais. Et alors aussi, ils disent, et là aussi, ils ont tout faux, que c'est un luxe de grands bourgeois. Bon, la climatisation, ça coûte pas 10 000 euros. Aujourd'hui, on peut trouver des climatiseurs mobiles pour 300, 400, 500
euros. Et puis, l'eau courante, c'était un luxe de grands bourgeois.
Oui.
Il y a un siècle.
Et maintenant,
tout le monde l'a. Donc, si vous voulez,
l'avion, c'est un luxe, il y a un siècle.
Maintenant, par contre, quand vous prenez l'avion, vous avez l'impression que vous preniez le bus entre Auch et Tarbes, quoi. Vous savez ce que je veux dire? C'est plus tellement luxueux, mais enfin, vous êtes content de l'avoir quand même. Et donc, si vous voulez, tout ce qui était un luxe il y a un siècle est devenu normal. Donc,
devenu monnaie courante.
Les voitures, quand j'avais votre âge, les voitures n'étaient pas air conditionnées.
Il fallait bien ouvrir les fenêtres.
Ça, il y a les deux chevaux, on ouvrait le toit comme ça, comme une boîte de sardines, mais c'était bien. Non, mais tout ça, si vous voulez, c'est une espèce de détestation de la vie. Moi, si vous voulez, c'est vraiment, je reviens toujours à la même chose, c'est il y a les gens qui aiment la vie et là, les gens qui aiment emmerder les autres.
Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord.
Je crois que dans les gens qui font emmerder, qui veulent emmerder les autres, il faudrait les interdire de se présenter aux élections. Quoi.
Mais d'ailleurs, toutes les études qui se penchent sur la question montrent que à l'extrême gauche, on va dire dans le dernier quartile, les 25% des gens qui s'estiment eux-mêmes les plus à gauche dans la société, le nombre de troubles mentaux est largement supérieur à ce qu'on se trouve dans le reste de la population.
Le socialisme, ce que je dis toujours aux gens, c'est une maladie mentale. Hein.
Oui.
Faut pas déconner.
C'est oui, on retrouve énormément de dépressifs, on retrouve même des gens qui ont des troubles beaucoup plus sérieux.
Vous voulez parler de Mélenchon, j'imagine. C'est,
oui, alors là,
pas bien normaux, ça.
Je pense que Mélenchon, effectivement, a quelques névroses, pour être très poli, sur, notamment
non,
par rapport à son enfance.
Vouloir s'occuper des autres pour les empêcher d'être heureux et d'être prospères, faut quand même être un peu spécial.
Oui, ouais, tout à fait. Et le tout dernier argument, qui pour le coup est un peu valable sur la clim, c'est qu'on dit que ça recrache de l'air chaud. Et je me suis un petit peu penché sur la question, et d'après ce que j'ai vu, peut-être que je me suis penché sur les mauvaises études, mais d'après ce que j'ai vu, même en zone urbaine dense, c'est-à-dire là où vous avez le plus de clim qui recrache de l'air chaud, eh bien en fait, cet air chaud augmente la température de la ville de moins de 1,5 degré en journée, et entre 1,5 degré et 2 degrés la nuit. Donc c'est pas si important que ça, très franchement.
Oui, et puis... D'abord, pendant la nuit, ils devraient être chez eux et dormir, tiens.
Oui, bah normalement, si on a la clim, c'est fait pour. C'est fait pour bien dormir.
Effectivement, ça sert à rien de marcher dans la
si
rue.
Si vous allumez la clim et que vous allez ailleurs, pour le coup, oui, ça sert à rien. Ouais, ouais. Ouais.
Non, d'accord. Mais tout ça, si vous voulez, il y a une espèce derrière tout ça de volonté d'embrigader les gens, qu'ils obéissent à ce qu'on leur dit de faire, mais faites ce qu'on vous dit. Et vous dites, mais vous... encore une fois, en bon libéral, vous ne pouvez pas foutre la paix aux gens. Juste cesser de les emmerder.
Oui, cesser de les
juste
emmerder.
Cesser de vouloir les diriger.
Laisser les gens s'organiser.
Laisser les
bien.
Gens. Il y en a qui veulent. Moi, par exemple, je n'ai pas tellement besoin de clim pendant la nuit. Je dors très bien. Et puis, il y en a qui ne dorment pas. Donc, moi, je ne mets pas la clim. Mais s'il y en a qui veulent la mettre, je ne les empêche pas. Mais laissez les gens libres.
Oui.
Qu'est-ce qui vous permet de croire qu'en diminuant la liberté des gens, vous améliorerez la situation? C'est odieux. Ça m'énerve, ça me fait sauter partout.
Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est une pulsion qu'on retrouve très souvent, et en France en particulier sur cette question de la clim, puisque seulement 25%.
Et alors, au moment du masque, je me souviens, j'avais pris un avion allemand pour aller au Canada, à Boulogne-Billancourt, il fallait mettre le masque, et moi de temps en temps je me mettais sur mon nez avec le masque parce que je voulais respirer. Et j'avais toujours deux ou trois hôtesses de l'air qui, à peine je le baissais, qui se précipitaient vers moi en me disant...
En plus, les Allemands, là-dessus, ils sont très...
Je leur disais, mais... Français, je... je sais pas, chez les Allemands, ils étaient vraiment disciplinés sur le coup du masque.
Ils sont très à cheval là-dessus.
Sur les ordres qu'on donne.
Oui, tout à fait. On m'a donné des ordres, j'ai pas trop réfléchi, j'ai appliqué, quoi.
j'avais fait une autre chose aussi pendant le Covid que... qui m'a valu bien des reproches. C'est, vous savez, qu'il m'arrive de fumer des cigares.
Oui, bien sûr.
Donc j'avais fait un masque avec un trou pour le cigare et je me baladais partout avec mon masque et mon fond. Parce qu'il m'emmerde, je veux pas obéir. Ouais.
Plus ça, au bout d'un moment, c'était vraiment juste idiot parce que tout le monde avait son masque qu'on ressortait toutes les deux secondes, qu'on mettait dans la poche arrière.
Qui était dégueulasse.
Qui était dégueulasse, qui avait plus de microbes que la cuvette des toilettes. Enfin,
c'était affreux.
Complètement.
Il y a des gens qui sont contents quand ils vous forcent à obéir.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et c'est,
On gagnerait à avoir plus de liberté au sens pluriel.
Ben voilà, mais encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que l'une des choses qui me paraît le plus extraordinaire, c'est qu'ils ne perçoivent de solution que dans la contrainte, alors qu'on pourrait essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses dans le sens d'une plus grande souplesse, je ne sais pas. Non, non, ce qu'il faut, c'est que vous consommiez moins d'énergie. Mais si je consomme moins d'énergie, je vais être malheureux comme un caillou. Parce que... Mais non, c'est parce que c'est bon pour tout le monde. Mais foutez-moi la paix, moi. J'ai déjà assez de mal à m'occuper de moi-même, j'ai pas envie de m'occuper de la terre entière. Quoi.
Tout à fait. Je vois vraiment deux types de solutions à chaque fois à ce problème. C'est les solutions de gauche, enfin les solutions socialistes, la contrainte, la taxe. On va appauvrir les gens, on va réglementer, vous n'avez pas le droit de faire tant de kilomètres, etc. Bon, à chaque fois, c'est ça. Et puis après, je vois les solutions du capitalisme, où là, c'est on va permettre d'améliorer votre niveau de vie, ou du moins de le garder tel quel, en polluant moins, en étant plus efficace,
en faisant des meilleures voitures,
absolument, qui vont plus loin, qui est, bon, bref. Et à chaque fois, c'est toujours le camp du capitalisme qui m'intéresse le plus, parce que franchement, l'autre, il fait un peu flipper, quoi. Bref. Donc, on a pas mal couvert ce sujet.
Encore une fois, socialisme et communisme, c'est une maladie mentale. Donc, il faut envoyer les gens dans des asiles et on se retrouve entre gens normaux.
Ouais. Et je rappelle qu'au passage, c'est pas le capitalisme qui a asséché la mer d'Aral aussi. C'est plutôt les communistes pour le coup. Donc voilà, je vous remercie bien sûr pour votre attention lors de cette émission. C'était la dernière pour l'Institut des Libertés, enfin pour le délit d'opinion de l'année. On se retrouvera évidemment en septembre.
Et s'il se passe des choses extraordinaires, on essaiera peut-être de faire une émission spéciale.
Voilà, on peut toujours se faire une petite visioconférence en compagnie des cigales, j'imagine.
Les cigales.
Voilà, avec un petit verre de Châteauneuf-du-Pape.
Peut-être. On vous laissera, il passe des choses extraordinaires, on ne vous laissera pas tomber, on vous donnera notre avis. Qui sera sans doute, si on laissait faire la liberté, ça irait mieux.
Ouais. Et puis, si vous voulez avoir un petit peu plus de nouvelles, que vraiment on vous manque comme pas possible, vous pouvez faire aussi un petit tour sur l'Université de l'Épargne, où on sera un petit peu plus présent, notamment à l'écrit. Vous adorez écrire pendant l'été, donc à chaque fois, vous sortez un bouquin en début d'année.
J'ai écrit pendant l'été, je vais sans doute en faire un encore.
Ah bah, formidable. Et moi aussi, je vous donnerai quelques nouvelles sur l'Université de l'Épargne. Il y aura certainement des choses à analyser du point de vue financier ou économique ou autre. Donc voilà.
Ce serait bien se fermer les bourses pendant 2 mois, on serait peinard.
Ouais.
Et on peut reprendre des vacances tranquilles et ensuite on les rouvre. Quoi.
D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais appris que c'est au Japon. Au Japon, ils ont une pause le midi sur le stock market. Je trouvais ça assez fascinant. Tout à fait intéressant. Enfin voilà, je vous remercie bien sûr pour cette année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle année en septembre sur l'Institut des Libertés. Merci encore infiniment.